Vous écoutez Conversation avec la nature, le podcast du Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire. Là où chaque mètre carré compte et chaque parole porte. Aujourd'hui, épisode 1, connaître, avec Serge, responsable scientifique et technique partout dans la région. Un podcast présenté par Isabelle.
Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce tout premier épisode de Conversation avec la nature. Et pour débuter cette série d'épisodes sur le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire, on va parler de suivi scientifique, d'inventaire faunistique, floristique. C'est le travail de connaissance. Connaissance qui constitue la première mission du Conservatoire et la base de tout le travail qui va suivre. Et pour parler de ce sujet, qui de mieux que notre responsable scientifique et technique, Serge. Bonjour Serge.
Bonjour Isabelle.
Merci de nous rejoindre. Alors Serge, tu es un ancien en fait du conservatoire, puisque ça fait 25 ans que tu es au conservatoire en tant que responsable scientifique et technique. Et donc c'est toi qui mène un petit peu le travail de terrain, le travail de suivi. Alors est-ce que tu peux nous dire comment on identifie un site à enjeu?
Alors un site à fort enjeu de biodiversité, ça s'identifie à travers différents programmes d'inventaire qui existent, comme l'inventaire des ZNIEF, un bon jargon pour dire zone naturelle d'intérêt écologique pour la faune et la flore. Il y a aussi les inventaires du patrimoine géologique. Et puis aussi, il y a la connaissance des experts, des gens, qui nous permettent de détecter des sites à fort enjeu. Et puis après, il suffit d'aller sur un site et d'être, de tomber amoureux, mais au moins de voir un paysage très particulier qui parle à soi-même et qui permet après d'aller mettre en place des inventaires et voir s'il y a des choses très intéressantes sur ce type d'espace naturel.
Donc tu passes le plus clair de ton temps sur les sites naturels en fait?
Malheureusement non, j'aimerais beaucoup, mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps à découvrir la flore, à travailler sur les papillons, beaucoup, sur les orthoptères, donc les criquets sauterelles, les chauves-souris, et plein d'autres domaines où d'aller compter les arbres ou les mesurer. C'est très marrant comme jeu.
Vous allez peut-être entendre plusieurs gros mots du jargon scientifique, mais on te demandera des précisions si jamais on ne comprend pas trop de quoi il s'agit. Alors quand on arrive sur un site, quelle est la première chose qu'on fait? Par quoi on commence?
Eh bien on commence par faire ce qu'on appelle un diagnostic écologique. C'est-à-dire qu'on va réaliser la carte des habitats présents, les milieux, donc la forêt, les buissons, les prairies, et sur lequel après on met en place des inventaires sur la flore principalement, parce que la flore indique un état de conservation du site ou d'un milieu, et puis également la faune, les oiseaux, les mammifères. Et à partir de là, on dresse des listes d'espèces et on va chercher les espèces qu'on dit menacées, qui sont soit protégées, soit présentes sur des listes rouges. Et à partir de là, on est capable de mesurer à la fois l'état de conservation du site avec tous ces éléments-là et aussi toutes les espèces menacées. Et de ça, on essaie de mettre en place ce qu'on appelle des objectifs de conservation pour pouvoir préserver les espèces rares, les milieux rares et menacés. Et ces objectifs de conservation sont contenus dans un document qui s'appelle le plan de gestion qu'on a pour chaque site.
Et donc c'est vraiment, il est vraiment primordial avant de construire ce plan de gestion de bien connaître le milieu.
Oui, c'est essentiel. En fait, c'est ce que j'appelle la pierre angulaire. On peut pas, si on ne connaît pas, on ne peut pas bien agir, on ne peut pas faire connaître à travers la valorisation et on ne peut pas partager justement les richesses de notre territoire.
Un plan de gestion, c'est un peu comme une feuille de route finalement, si je comprends bien. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment ça se présente?
Un plan de gestion, c'est déjà un document papier avec plein de pages, ça c'est vrai. Les plans de gestion sont des documents officiels qui sont rédigés par les chargés d'études, avec l'appui des collègues de chargés de gestion, gardes animateurs ou animateurs ou animatrices nature. Et c'est des choses qui sont concertées avec les acteurs locaux, pour les sites qui sont notamment ouverts au public, où on a beaucoup d'usagers, et appuyés également par des experts scientifiques qui participent à la réflexion. Et tout ça est validé à la fois par notre conseil scientifique et par notre conseil d'administration, pour que les choses soient officielles et que ça ne soit pas un simple document. Donc c'est vraiment un document de fond stratégique qui est validé par nos instances.
Et c'est la base de travail ensuite pour les chargés de gestion, les animateurs?
Pour tout le monde, sur tout le travail de notre site, c'est les plans de gestion qui ne sont pas un dogme, parce qu'on peut toujours revoir les choses, mais qui donnent vraiment la feuille de route, comme tu l'as très bien dit Isabelle. Et dedans, on retrouve effectivement la liste des espèces rares ou les habitats menacés, et sur lesquels on détermine des priorités et des enjeux, afin de déterminer des objectifs de conservation. Par exemple, si on a un milieu ouvert à fort enjeu, comme une prairie riche en orchidées, on va faire en sorte de maintenir ce milieu-là par des pratiques de fauche ou de pâturage. Si on a une forêt, par exemple, au conservatoire, on a plutôt tendance à mettre en place de la libre évolution, si on a une forêt qui est riche et diversifiée et surtout mature, et ce qui permettra après, effectivement, de mettre en place ce qu'on appelle des actions de libre évolution, qui on laisse librement évoluer la forêt pour des siècles et des siècles. Le plan de gestion, la finalité, c'est de faire un programme d'action, que ce soit pour agir, protéger, gérer, et puis aussi faire connaître. Et c'est vrai que typiquement, sur nos réserves naturelles régionales, notamment de la vallée des Cailles, où on a des pelouses calcicoles, l'objectif c'est de maintenir les pelouses calcicoles en état pour pouvoir maintenir le cortège de plantes, de papillons, mais aussi de mollusques présents sur ce site qui sont avec des forts enjeux.
Et j'imagine qu'au fil des années, tu as dû voir des évolutions sur les sites. Et du coup, est-ce que les enjeux de conservation évoluent aussi ?
Alors, avec le temps, on s'aperçoit ce qu'on a fait il y a 10-15 ans, les enjeux restent les mêmes. C'est juste que notre contexte climatique change. On a pris déjà 1,5 degré de température en supplément depuis 1950 et on va prendre encore 1,5 degré d'ici 2050. Ce qui pose des vraies questions sur la prise en compte du réchauffement climatique dans notre gestion. Et au final, on ne va pas chambouler complètement les choses parce qu'on faisait beaucoup de gestion, ce qu'on appelle en mosaïque, c'est-à-dire qu'on maintenait des milieux ouverts, des milieux fermés, des zones en libre évolution, des zones entretenues. Et l'idée, ça va être de conserver cette méthode-là, mais de faire un peu plus attention aux îlots de fraîcheur. C'est vrai qu'on parle beaucoup des îlots de fraîcheur en ville parce que c'est un vrai besoin. Mais dans les espaces naturels, il faut aussi conserver des îlots de fraîcheur pour la faune, notamment, avec des buissons, des arbres isolés, des forêts qui permettent à la faune de pouvoir se réfugier au moment des pics de canicule. Et c'est vrai que peut-être que le paysage d'aujourd'hui de nos sites va être peut-être un peu plus arboré ou un peu plus buissonnant pour justement maintenir cette variété et permettre finalement à tout le cortège de faune de se maintenir sur nos sites. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le cortège d'espèces méditerranéennes qui se maintiennent sur nos sites va être plutôt favorisé. Par contre, les espèces de milieu froid sur nos tourbières risquent de souffrir de ces nouvelles conditions, même si sur nos sites, même en plein mois d'août, on a encore des gelées matinales sur des tourbières.
Et donc des actions qui étaient mises en place il y a plusieurs années sont plus forcément pertinentes aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Il y a des actions, par exemple, de réouverture. De déboisement qu'on a pu conduire, qu'on ne refera plus aujourd'hui, parce que le réchauffement climatique et la forte chaleur qui peuvent régner va créer des dépérissements forestiers. Et il y a des milieux qui vont se réouvrir tout seuls. Et donc on va juste accompagner les sites. Et c'est vrai qu'il faut, avec nos outils de suivi scientifique, comme les indicateurs Ligero, comme le suivi des cortèges d'espèces, avec le suivi STERF sur les papillons, comme le suivi d'espèces qu'on appelle rares et menacées, hein, comme le pélobat de brun sur les mares ou certaines plantes très rares qu'on suit. L'idée, c'est de pouvoir suivre les évolutions et de pouvoir s'adapter en fonction des conditions climatiques et du nouveau régime climatique auquel nous subissons. Typiquement, l'idée, c'est pas de prédire ce qui va se passer sur nos sites parce qu'on n'est pas capable. Même les plus beaux modèles mathématiques se trompent. L'idée, c'est de se préparer à ce qui va arriver pour que nos sites puissent s'adapter. Ce qui est sûr, c'est que si on a des sites les plus diversifiés, les plus riches possibles, on aura des sites qui seront résistants et résilients face au changement climatique. Et ça, c'est une certitude. Donc l'idée, c'est de garder cet espoir en se disant que la biodiversité va se porter mieux à partir du moment où on va compter sur elle et sur le vivant. Voilà.
Finalement, le travail scientifique, ce n'est pas uniquement les plans de gestion, mais c'est aussi tout un travail d'appui technique aux partenaires, à d'autres interlocuteurs. Ton équipe est composée de différentes cellules d'appui technique. Est-ce que tu peux nous en parler? En quoi ça consiste et c'est quoi une cellule d'appui technique?
Alors, une cellule d'appui technique ou un groupe de travail, que ce soit pour les zones humides ou pour les espèces exotiques envahissantes, l'idée, c'est d'appuyer ou de conseiller les acteurs du territoire, que ce soit des collectivités ou des gestionnaires, dans la prise en compte des différentes problématiques. Alors, sur les zones humides, l'idée, c'est d'aider les collectivités à prendre en compte les zones humides. Et pour cela, avec Brigitte Ruot, on va voir les collectivités pour qu'ils mettent en place des inventaires des zones humides, qu'on les aide à, en termes d'appui sur le foncier, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent porter ou acheter du foncier ou est-ce que c'est les conservatoires qui peuvent le faire. Et puis également, on les conseille sur les travaux de restauration. Et puis pour évaluer leurs travaux, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des indicateurs légéraux, des indicateurs de suivi pour mesurer l'efficacité des travaux sur leur site. Donc c'est tout ce travail-là qui est fait au quotidien sur les zones humides. Et sur le volet des espèces exotiques envahissantes, eh bien, les collègues Noémie et Colline travaillent à la fois sur la faune et la flore et ils vont conseiller notamment les acteurs au sens large, à la fois pour mettre en place de la gestion qui permette de réduire la pression sur la biodiversité, essayer de limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes, et également de pouvoir communiquer autour de ce sujet-là, qui est un sujet qui est bien complexe, parce que notamment sur les animaux, on a aussi un peu plus d'attachement pour les animaux, il faut aussi prendre en compte l'avis du grand public sur des problématiques comme la perruche à collier, qui est quand même un oiseau magnifique, mais qui est exotique chez nous.
Oui, j'allais te demander des exemples de faune ou de flore envahissante qui sont un petit peu sexy, on va dire, chez nous, mais qui finalement ne sont pas très bonnes pour le milieu.
C'est vrai que chez nous, entre les renouées du Japon, de Sakhalin ou de Bohême, ou les jussies, c'est vrai que notamment la jussie, c'est une très belle plante. Quand on manque de fleurs, les abeilles sont bien contents. Mais c'est vrai que sur nos zones humides et nos annexes hydrauliques, c'est un vrai problème. Et puis je pense que tout le monde a eu des tortues de Floride ou des tortues à tempes rouges ou jaunes, alors qu'on voit que ça a un impact notamment dans les zones où la cistude est présente en termes de compétition. Donc c'est vrai que pour nous, ces espèces exotiques qui peuvent être proliférantes et qui peuvent effectivement à la fois limiter les usages, notamment la navigation, ou avoir un impact sur la biodiversité et faire réduire notre biodiversité locale. En fonction des sources, c'est soit la troisième, soit la cinquième cause de perte de biodiversité sur la planète. Donc c'est vraiment un enjeu important de prendre en compte ces espèces exotiques envahissantes.
Et d'où l'importance de proposer des formations ou des conseils en fait pour différents interlocuteurs pour savoir les gérer.
C'est vrai, notamment sur le groupe de travail espèces exotiques envahissantes, Noémie et Colline produisent beaucoup de formations auprès des collectivités, des acteurs d'établissements publics comme l'Office national des forêts, pour pouvoir leur montrer des itinéraires techniques pour pouvoir prendre en compte ces espèces-là, pour éviter de les diffuser, qui est déjà la première chose, et puis après d'essayer de limiter leur surface, leur nombre, et ainsi améliorer l'état de conservation, notamment des forêts, avec la problématique du cerisier tardif. Et c'est vraiment important parce que ça a des fois un gros impact sur la production, un impact économique, les espèces exotiques envahissantes. C'est vraiment un sujet très important pour le quotidien.
Et je reviens sur la cellule d'appui technique aux zones humides. Les zones humides, c'est un enjeu prioritaire pour le conservatoire ?
Oui, c'est un enjeu prioritaire parce que ça fait partie des milieux qui nous permettent de nous adapter au réchauffement climatique. Les zones humides ont une capacité de filtration des eaux, de stockage de l'eau, de d'épandage de l'eau au moment des crues, qui sont un rôle essentiel. Et c'est vrai que sans les zones humides, on serait incapable de faire aussi bien qu'elles. Et ça permet aussi de recharger les nappes, notamment pour l'eau potable. Donc c'est vraiment une chose essentielle dans tous nos bassins versants, d'avoir ces zones humides. On voit très bien que les bassins versants qui ont des zones humides, soit qui ont disparu, soit très dégradés, ont des qualités d'eau qui sont très mauvaises. Donc on voit très bien que pour avoir des bassins versants riches et diversifiés, il faut un réseau de zones humides en bon état et qui sont gérés, en tout cas entretenus ou préservés de manière que ce soit par les collectivités ou par les conservatoires, histoire vraiment de pouvoir avoir des territoires pleinement adaptés aux conditions nouvelles de température.
Et alors Serge, pour conclure, est-ce que tu pourrais nous partager une découverte ou une redécouverte ou un succès de ta carrière de responsable scientifique et technique ?
Oui, j'en ai un en tête qui est une espèce emblématique de notre région, qui est le Rhinolophe feurial, qui est une espèce de chauve-souris qui est méditerranéenne et qui remonte jusque dans la Sarthe. Donc on est vraiment en limite d'air. Et c'est mon animal totem à moi, c'est qu'en 2003-2004, j'étais sur la réserve naturelle régionale du Bois des Roches, dans l'Indre. Et dans une des grottes, j'étais tombé sur 300 à 350 bêtes, qui étaient beaucoup à l'époque. Et aujourd'hui, on conduit des suivis depuis 2004-2005 de manière très régulière. Et aujourd'hui, on a des effectifs qui sont autour de 1800 individus, que ce soit en reproduction, en hivernage ou à l'automne, ce qui fait qu'on a multiplié par 6 les effectifs de cette population. Alors, on peut se dire qu'on y est pour quelque chose, mais au final, c'est que les chauves-souris ont trouvé un bon endroit pour manger, pour dormir, et qu'on leur a donné des conditions suffisamment satisfaisantes dans 3 des grottes de la réserve pour qu'elles s'épandent au-delà de la réserve, parce qu'aujourd'hui, on a des populations qui arrivent à Argenton-sur-Creuse, dans le sud de l'Indre, probablement qui vont aussi vers l'Indre-et-Loire, mais ça, on ne peut pas le savoir, vu que toutes nos chauves-souris ne sont pas marquées. Ce qui est sûr, c'est qu'en 6 ans, j'ai dû voir toutes les générations sans le savoir, parce qu'une rhinole euphoriale vit à peu près une dizaine d'années. Donc comme ça fait 20 ans que je les suis, j'ai probablement vu toutes les générations depuis 20 ans. Donc aujourd'hui, je dois être sur des arrière-arrière-petites-filles ou petits-fils de chauves-souris que j'ai vues à l'époque, que j'ai surpris à la lampe torche, de manière malhabile, en octobre 2003. Voilà.
Ils doivent te connaître depuis le temps.
J'en suis persuadé, en fait, qu'elles me connaissent, parce qu'on dit toujours les chauves-souris, on ne les entend pas, ce qui est faux, parce qu'elles émettent des cris sociaux. Et moi, je pense qu'elles émettent des cris sociaux, non pas pour se parler entre elles, parce qu'elles émettent des ultrasons. Je n'ai pas de traducteur de chauves-souris, mais c'est probablement que les cris sociaux sont aussi en partie destinés à nous. Voilà. C'est un mystère.
Je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, tout comme sur les zones humides, les espèces exotiques envahissantes. Mais bon, on essaiera de faire des épisodes spécifiques là-dessus. Mais pour l'instant, merci beaucoup, Serge, d'avoir été là pour nous parler de tout ça, et avec passion, on le sent. Parce que c'est vraiment un sujet qui est hyper, hyper vaste. Et comme vous l'avez vu, donc c'est un peu la base aussi du travail du conservatoire. Et donc, on verra dans les prochains épisodes qu'à partir de là, se construit tout un programme, et notamment un programme de protection via l'animation foncière notamment, mais pas que. D'ici là, merci à tous de nous avoir écoutés. Suivez-nous sur les réseaux et n'hésitez pas à commenter. Et surtout, portez-vous bien.
Cet épisode a été réalisé avec Isabelle Richardot à l'animation et notre invité Serge Grassette. Aux images, au montage, à l'habillage et à la voix, Anaïs Marot. Musique, Nature Calls, par Folk Acoustique, disponible sur Pixabay. Ambiance sonore enregistrée par Serge Grassette, dans le cadre du projet Sonosilva. Pour en savoir plus sur l'IGERO, rendez-vous sur www.ligero-zh.org. Et pour découvrir les espèces exotiques envahissantes, gtee.cen-centrevaldeloire.org. Retrouvez également toutes nos actions sur www.cen-centrevaldeloire.org. Un grand merci à l'ensemble de nos collègues du Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val-de-Loire. À bientôt !